Chapitre 45. Iris. On s'est donné rendez-vous dans un café. J'arrive la première, je m'installe à table et je surfe sur Instagram pour accélérer le temps. Mon frère est en Patagonie. Les paysages sont magnifiques et les habitants semblent accueillants. Mais malgré l'expérience de Clément, je n'ai jamais eu le goût du voyage. J'ai apprécié les rares que j'ai faits, mais je n'ai jamais été mécontente de retrouver mes repères. Je suis un chat castré. Je ne m'éloigne jamais trop de mon canapé. Salut Iris. Mel s'assoit face à moi. Instantanément, l'angoisse qui m'étreignait à l'idée de cette rencontre se dissipe. Elle m'a envoyé un message le lendemain de l'appel de mon frère pour me proposer qu'on se parle. Je la connais si bien que je devine derrière son masque de détachement sa joie de me retrouver. Je suis désolée, Mel. Moi aussi, j'aurais dû comprendre. Je n'avais pas compris moi-même. Tu sais qu'il m'a appelé ? Mon cœur s'arrête. Soi-disant pour me demander conseil à propos d'un litige, ajoute-t-elle. Il s'est bien gardé de me dire que t'étais partie. Il est gonflé 2 ans sans nouvelles et il apparaît comme Bernadette dans la grotte. Connard. Elle fronce ses sourcils. Maintenant, je peux le traiter de connard. Je ris. C'est presque trop gentil. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. On reste 2 heures qui ressemblent à 10 minutes. La complicité ressurgit comme si elle n'avait pas été entaillée. La relation reprend là où on l'a laissée. Mel me parle du cabinet dans lequel elle travaille, des affaires qu'elle défend, de Loïc, de leurs 2 pièces dans le 6e, de Marie, de Gaël, de ses parents, d'avant. Elle veut connaître tous les détails de mon départ, de mon histoire avec Jérémy. « Tu sais qu'il va continuer à te chercher ?» me demande-t-elle avant de partir. Je sais. Je fais de l'aïkido depuis 6 mois, je peux tout à fait lui faire bouffer ses couilles. S'il en avait, ça se saurait. Elle éclate de rire. Tu devrais porter plainte contre cet enfoiré, Iris. Demander une ordonnance de protection. Ça va peut-être se tasser. Il va finir par passer à autre chose. Il n'a aucune raison de m'imaginer à Paris. J'ai choisi la ville la plus peuplée. Je suis une aiguille dans une botte de foin. Elle finit par abdiquer. Non sans avoir lâché un chapelet d'insultes. C'est sa manière d'évacuer son stress, comme une aérophagie améliorée. Avant de partir, elle fait le tour de la table et m'enlace. Je ne lui ai rien dit pour la vie qui grandissait en moi. Je gardais le meilleur pour la fin. « Mais c'est quoi ce truc ? » s'écrie-t-elle en regardant mon ventre. « Je sais pas, ça a poussé cette nuit. Putain, je vais être tata !» Elle me reprend dans ses bras et me félicite 10 fois avant d'annoncer que mon enfant a intérêt à être moins con que son père. En regagnant l'appartement, je me sens comme après une longue hibernation. Je reprends contact avec ma vie après l'avoir perdue de vue. La solitude était devenue ma seule compagne. En retrouvant Mel, je me retrouve, moi. Je grimpe l'escalier avec la ferme intention de faire un sort à l'éclair au café que Théo m'a rapporté hier soir pour se faire pardonner sa réaction. J'avais prévu de le classer dans la catégorie des petits cons jusqu'à ce qu'il m'explique qu'il avait passé une journée compliquée. Il n'en a pas dit plus. Il n'en a pas eu besoin. Parfois, son regard reflète la noirceur de ceux qui ont regardé les ténèbres en face. Je suis presque arrivée au 3e quand une sonnerie dans mon sac m'alerte d'un nouveau message. Persuadée de découvrir un mot de Mel, j'attrape machinalement le téléphone et manque de le faire tomber en reconnaissant le numéro qui s'affiche. « Mon ange, t'es où ?» Il a trouvé mon numéro.